40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
On poursuit sur le canap avec Bertrand Fleurose, le patron et fondateur de City Scoot, un habitué de la mobilité à deux roues. Donc, une question peut-être plus simple, plus philosophique. Bertrand, pourquoi tu cours ?
Ou pourquoi tu roules peut-être ?
Bah, je cours pour me reposer plus tard. C'est marrant, j'y pensais l'autre jour. Et puis je pensais à, je sais plus qui j'avais eu, je sais plus, c'est un entrepreneur américain, il est mort en ne s'étant jamais arrêté, le mec. Et alors il est probablement très heureux, mais moi je peux pas faire ça. Moi j'ai envie qu'à un moment, tu vois, comme quand tu le fais toi le week-end ou n'importe quoi, tu vois, tu t'allonges dans ton canapé et t'ouvres un bouquin. Bon, moi, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Donc, je cours pour pas courir jusqu'à la fin de ma vie, en fait.
La question, du coup, c'est à quel moment on sait qu'on arrête de courir ? Est-ce qu'on peut très vite se laisser embarquer toute sa vie parce qu'on a une boîte, plein d'idées, plein d'envies ?
Est-ce que même on peut poser la question, et généralement, personne n'y répond vraiment, mais est-ce que, par exemple, il y a un niveau de fortune personnelle qui peut être un déclencheur et qui dit, bon, là, j'ai... Ou alors, est-ce que c'est autre chose, un indicateur qui fait, j'ai atteint à peu près ce que je voulais faire en termes d'impact sur le monde ou de transformation de la société ou...
Non, mais c'est pas une question d'argent. Alors, il y a un peu d'argent, évidemment, parce que quand tu crées un truc et que tu vois que... C'est surtout quand tu sais que tu as enrichi tous tes actionnaires, tu as envie de faire partie de ceux-là, tu vois, enfin, de ceux qui se sont enrichis. Mais je crois que ce n'est pas une question d'argent. Je crois que c'est une question...
Oui, parce que sinon, tu peux continuer de courir éternellement.
Mais oui, exactement. Donc, moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est une question où il y a un moment, et je pense que... Je ne peux pas répondre à ta question, Thomas, parce que je n'ai pas le KPI qui me dit « t'arrêtes, t'arrêtes pas », etc. Je pense que c'est... je pense que la vie, elle te le dit à un moment. Je pense qu'il y a quelque chose qui te frappe sur l'épaule et qui te dit maintenant... tu vas lire des livres. Moi, j'ai envie de m'arrêter pour lire des livres, tu vois. Parce que j'ai pas le temps de lire. Donc...
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Ouais, vraiment sur le canapé. Alors, c'est pas une séance de psy.
Non, mais on s'intéresse effectivement aussi à la personne, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast 40 nuances de Next, c'est qu'on vous considère aussi comme des champions et inspirants. Donc, on se demande qu'est-ce qui vous inspire aussi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes devenu entrepreneur ? Et qu'est-ce que tu partagerais de ce que tu as appris par cette entreprise peut-être à tous ces auditeurs qui ont envie de se lancer.
Oui, alors déjà, il y a un truc, on a oublié d'en parler depuis le départ, mais si ça se trouve, je suis plus Next.
Ah oui, il y aura bientôt le nouveau Next 40.
Mais ouais.
C'est vrai.
Bah, tu
comment
tu,
comment vous allez faire, les mecs, quand si jamais je suis plus Next 40?
Eh ben écoute, on va mettre le truc aux oubliettes. On censurera et on fera comme si on s'était jamais parlé.
Non, pour nous, ceux qui ont été Next 40, le reste, enfin le reste, en tous les cas, symboliquement.
Le reste en alumni. Tu sais.
Mais
c'est comme un président passé, il reste Monsieur le président.
Mais ceci dit, bon, c'est comme le CAC 40 en fin de compte, ça peut bouger aussi. C'était l'idée du Next 40, donc ça peut effectivement bouger. Et il est vrai qu'il y a eu des levées de fonds records ces deux dernières années. Donc forcément, ça peut bouger un peu. Même si beaucoup des grosses levées de fonds, c'était des gens qui étaient déjà dans Next 40.
Ok, ouais, j'ai essayé de me faire mon propre pronostic l'autre jour avec avec un Excel. Lui, il a levé 140. Ah, il était déjà ouf.
Ce qui veut dire, si tu espères y retourner, c'est qu'on y trouve quelque chose. C'est vrai qu'on en parle rarement, de cet apport du fait d'être au Next 40. Est-ce que c'est que de la visibilité ? Je crois qu'il y a aussi tout un accompagnement.
Je réponds à ça d'abord parce que la question de pourquoi tu as voulu être entrepreneur et tout...
Et on va y revenir, on va même aller un peu plus loin dans ton enfance.
Ok. Non, le Next 40, pour moi, ce qui est marrant, c'est qu'avant que ça existe, on vivait très bien. Et maintenant que ça existe, tu as envie d'y être. Tu as envie d'y être parce que tu t'aperçois. Moi, j'ai un interlocuteur à qui je rends hommage d'ailleurs là.
Amir Majoubi, Cédrico.
Alors, Cédric, il est. Quand je l'appelle, ou que je le textote, il me répond en 2 minutes. Donc, hyper accessible, génial et tout. Et c'est un copain de promo de mon DG, de HEC, de mon DG. Donc, on est assez proches. Non, moi, c'est Louis Fleuret. Louis Fleuret, c'est celui qui s'occupe de, pas seulement de moi, d'une vingtaine, je crois, entre 10 et 20 boîtes du Next 40. Et j'ai jamais vu une équipe de mecs aussi attentifs, à l'écoute. Ils reviennent sur les sujets, même si de temps en temps, c'est moi qui ai oublié de redemander, c'est lui qui revient, etc. Donc, moi, je dis chapeau Next 40. Je dois avouer, et j'espère que ça ne va pas créer de dissension, mais le fait d'avoir été Next 40, je pense, nous a aidé dans nos demandes de prêts garantis d'État. Donc ça, c'est un avantage. Je sais qu'on a accès aux différentes administrations d'un claquement de doigts, alors qu'avant on galérait. Donc je crois que notre vie, elle est un petit peu facilitée quand même au niveau, ne serait-ce qu'administratif, en faisant partie du Next 40.
Après pour revenir aux questions plus perso,
puis il y a la visibilité aussi.
Là, on est dans la partie de ton émission qui est plus perso, mais je pense qu'il y a un lien finalement, parce que le Next 40, c'est aussi une forme de reconnaissance, à mon avis. Après, tu peux l'accepter ou pas comme tel, hein. Je donne un avis extérieur. Et donc, est-ce qu'il y a aussi une dimension d'ego après dans la reconnaissance? Est-ce que c'est un des moteurs de l'entrepreneuriat et de la réussite? Ou en tout cas, est-ce que c'en est un pour toi?
Alors, c'est pas un moteur, mais il y a de l'ego. Moi, j'ai pas beaucoup d'ego pourtant, je vais te dire. Mais bizarrement, si j'étais pas Next 40 là en 2021... Je serais vexé.
Je serais frustré.
Ouais. Je serais vexé. Mais comme ce sont des critères objectifs, montant de levée, multiplication du chiffre d'affaires sur les trois dernières années, après tout, j'aurais pas le droit d'être vexé, mais ça m'énerverait de plus faire partie du club des 40 premiers. Bon. Mais je serais très content de faire partie du FT 120. D'ailleurs, il y a la moitié des boîtes qui ont levé plus de 50 millions cette année, qui étaient des boîtes du FT 120. Donc je pense que les boîtes du
French
FT 120.
Tech 120,
elles, ouais. Elles sont au moins tout aussi valables que celles du Next 40, donc je n'ai pas de problème avec ça. J'ai répondu à cette question, donc je reviens sur la question de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être entrepreneur? En fait, moi, je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et j'étais bien, en fait, bon, mis à part que, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien appris en faisant de la finance, mais j'étais bien parce qu'on ne me disait pas ce que j'avais à faire. J'étais responsable de mon propre département, on me faisait suffisamment confiance pour savoir si les positions que je prenais sur les marchés financiers étaient les bonnes, etc. Et en fait, j'ai toujours vécu comme ça. Et je n'ai jamais eu vraiment, même si j'avais au moins 3 ou 4 couches au-dessus de moi chez JP Morgan, même plus que ça probablement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un patron. Okay, je devais des comptes, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir un patron. Et en fait, je fais partie de ceux qui... et c'est pas que j'ai envie d'être patron moi-même ou de donner des ordres, c'est que j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire.
Et est-ce que ça influence la façon dont toi tu es patron du coup? C'est-à-dire ton style de management d'une certaine manière?
Alors j'essaye de pas. Je pense qu'au début j'avais ce défaut. Notamment, il y a tous ces patrons qui ne savent pas déléguer parce qu'ils pensent que jamais aucun de leurs salariés pourra faire mieux qu'eux.
Généralement, les boîtes grandissent ou moins vite.
Ouais, bon, moi ça m'arrive. J'étais comme ça au début. Hein. C'est évident quand tu es patron la première fois. Tu penses que tu sais mieux que tout le monde. Bon. Aujourd'hui, je m'aperçois que tous les gens qui sont à mon codir, enfin, on appelle ça comex ici, ils sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. Il leur manque peut-être juste un truc, c'est la valeur et la vision, c'est tout. Que je pense là où c'est encore mon petit avantage sur eux.
Et quelle est la valeur?
La valeur de la boîte, c'est la confiance. Moi je peux me vanter, je pense, d'être quelqu'un d'une confiance extrême, enfin à qui on peut faire confiance.
Et avoir confiance génère la confiance.
Ouais, je pense, ouais. Et il n'y a pas que ça.
Dans
hein.
La partie philosophique là, de Thomas, c'est
non, mais il
n'y
a pas que ça. La confiance, tu sais, quand tu.
Ça bouge pas.
C'est peut-être pour ça que j'adore la notion de service. C'est que moi, je veux que mon client, aujourd'hui, il ait tellement confiance dans le service CityScoot qu'il sait qu'en descendant dans la rue le matin ou en sortant de son déjeuner, il va avoir un scooter à 100 mètres qui va fonctionner. Et pour moi, ne pas trahir cette confiance-là, et moi, je n'ai jamais trahi personne, ne pas trahir cette confiance-là, c'est énorme. Et donc, pour moi, la plus grosse valeur, tu sais, c'est « reliability » en anglais. Il n'y a pas la vraie traduction de « reliability ».
Fiable ou...
Ouais, la fiabilité. Ouais, t'as raison, c'est fiabilité. Moi, je pense être le mec le plus fiable du monde. Je suis connu pour ça et je veux que mon service soit le plus fiable du monde. Donc, c'est la valeur principale, c'est la fiabilité.
Je reviens sur cette notion de besoin de liberté ou en tout cas minima de ne pas rendre de compte. C'est un tempérament. Un tempérament, il se forge. Alors
maintenant, je dois rendre des comptes à mes actionnaires.
Voilà. En fait, ouais. Finalement, on doit toujours rendre des comptes à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc, on va dire plus ou moins. Mais les tempéraments se forgent jeune. Quel gamin t'étais ?
Je suis fils unique, moi. Je suis désespéré d'être fils unique. Ça m'a. Je pense que sur le coup, je m'en suis pas aperçu. Mais plus tard, quand je voyais mes copains avec leurs frères, leurs sœurs et tout ça, ça m'a rendu un petit peu jaloux. Donc, j'étais un gamin sage, feignant. Je crois que je suis toujours un petit peu feignant. Mais j'ai pas du tout. J'étais très obéissant, tu vois. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de rendre des comptes ou de s'entendre dire ce qu'on doit faire qu'on respecte pas ses parents et qu'on respecte pas ses aînés.
Il n'y a pas eu de crise d'adolescence chez Bertrand?
Non, jamais, rien. J'ai pas fait de conneries du tout. J'ai passé un an aux États-Unis avec tous mes copains pour faire mon bachelor à un moment. Et on a super déconné. Mais sinon, non, j'ai pas eu de crise d'adolescence.
On a des entrepreneurs qu'on a eu à ce micro, notamment, qui est petit, déjà, monter des business divers et variés à l'échelle d'un enfant ou d'un ado.
Non,
est-ce que toi, tu avais, au-delà de ça, des petits signes avant-coureurs de l'entrepreneur que tu serais un jour ?
Non, je ne savais même pas que je serais entrepreneur.
C'est tombé comme ça.
Non, non. Moi, il y a un truc, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué. Moi, j'ai fait mon service militaire. Je suis parti de ceux qui ont encore fait leur service militaire.
Et là, je lève la main et dire moi aussi.
Ouais. Vous êtes des anciens.
On a tous les deux des départs de poivre et sel on peut expliquer ce que c'était aux petits jeunes.
Et j'ai adoré le service militaire. J'ai adoré.
Une autre forme de fraternité, du coup.
J'ai failli m'engager, moi. Et pourtant, j'avais de la hiérarchie, tu vois. Mais je trouvais que le fonctionnement était extraordinaire. C'est la solidarité entre les soldats, les appelés et tout ça. Moi, j'ai adoré le service militaire. J'aurais pu m'engager si déjà à l'époque, je ne travaillais pas dans la société de bourse où j'ai commencé. Et donc, j'avais envie aussi de gagner ma vie. Mais j'ai adoré ça.
Tu n'étais donc peut-être pas destiné à devenir entrepreneur. Quand on parle de l'enfance avec Olivier, on aime bien s'arrêter sur des mantras qui sont restés, des choses peut-être que tes parents disaient ou un prof. On avait, c'est souvent l'exemple que je prends, Julia Bijawi qui gardait cette idée que la confiance appartient, non, que l'avenir appartient, je me trompe à chaque fois, l'avenir appartient à ceux qui sont confiance. La dernière fois, on avait Julien d'iAdvice qui nous disait que la chance et le travail qui ne se voit pas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui...
Non, moi, c'était beaucoup plus... Moi, mon père, c'était un... Mon père, c'était un entrepreneur aussi, vers la fin de sa vie. Moi, j'ai grandi dans le monde des... Alors, il a été militaire aussi, mais j'ai grandi dans le monde des San Antonio et tout. Donc, moi, les citations, c'est plus du Pierre Dac et du San Antonio. On n'a pas fait beaucoup de philosophie avec mon père et on ne s'est jamais posé ce genre de questions.
Est-ce que tu as une citation de Frédéric Dard en tête ou pas ?
Oh non, non, j'ai pas.
on s'y
replonge. J'ai pas, mais j'adore et je continue de vivre dans ce monde-là.
En tout cas, tu nous as dit que tu n'avais pas le temps de lire. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un petit générique qu'on adore.
S'inspirer. Respirer.
On ouvre large la cage thoracique, comme dirait mon coach de sport. Non, l'inspiration, la respiration. Est-ce qu'il y a alors peut-être des auteurs ou peut-être d'autres éléments culturels qui peuvent être cinématographiques ou des documentaires ou d'autres moments qui sont des sources d'inspiration pour toi?
Moi, j'adore les... Ouais, moi, je dis que je lis pas, mais en fait, je passe plusieurs heures, enfin au moins une heure par jour, le soir, pendant que je fais semblant de regarder la Netflix. Je me bouffe du Wikipédia et du Google. Voilà. Et j'adore aller sur lire la vie des gens intelligents. Des grands mathématiciens, des grands joueurs d'échecs. Je suis en admiration devant tous ceux qui ont des intelligences spécifiques. Je dois dire que j'ai toujours regretté de ne pas avoir été un grand mathématicien. enfin, pas un grand mathématicien au sens que j'aurais découvert des trucs ou que j'aurais concouru pour une médaille quelconque, mais en tout cas avoir été bon en mathématiques.
Ah ouais, pourquoi ?
Je pense que j'aurais été bon, mais j'ai pas suivi ce cursus-là et je suis un peu frustré de pas avoir fait ça. Donc et pareil, moi je suis pas très bon aux échecs et je suis admiratif des grands joueurs d'échecs.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces formes d'intelligence qui sont peut-être pas communes ?
Oui, c'est ça. Non, mais les facultés d'analyse. Hein,
c'est une capacité d'abstraction ouais. aussi.
Je pense qu'il y a des gens... enfin, voilà. Moi, j'adore lire les biographies et des gens qui sont un peu hors du commun, mais intellectuellement. Voilà. Plus que des artistes, par exemple. Voilà, c'est tout. Donc, je bouquine beaucoup de ça. Sinon non, mais j'ai pas le temps. Quand j'ouvre un livre, je m'endors au bout de deux pages.
Est-ce que quand t'auras le temps, on va pas faire la question qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte, mais plutôt quand tu auras le temps, parce que tu dis que tu cours pour mieux t'arrêter. Est-ce que t'as un livre comme ça dont tu te dis il faudrait vraiment que je l'ai lu celui-ci?
Ah non, mais j'en ai pas un parce que ouais, celui-là je le lis ouais, quand même. Faut pas exagérer. Je me prends un peu de temps et je le lis. Non, j'aimerais relire tous les grands classiques.
Ouais.
Je m'aperçois que j'ai quand même quelques lacunes et que j'ai pas lu tous les grands classiques et j'ai envie de me les faire ou certains même de me les refaire. Je regrettais l'autre jour, j'ai réalisé que je n'avais jamais lu livre d'Albert Camus.
Ah oui, eh ben écoute, ouais. je te conseille notamment Le Premier Homme, qui est le livre posthume qui a été publié donc après sa mort par définition et qui re-raconte sa naissance en Algérie et comment est-ce qu'il est devenu Albert Camus, finalement prix Nobel, alors qu'il était dans une famille très très pauvre avec une grand-mère aveugle, etc. Donc très 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 beau livre.
Ouais, je suis sûr. En plus, moi, ma mère est née en Algérie, elle était française d'Algérie. Je n'ai aucune excuse de ne pas avoir lu Albert Camus, d'autant que ces livres se lisent assez rapidement. Quand même.
Tu vois ce que je trouve, Thomas, de très original dans ce qu'on est en train d'échanger là avec Bertrand, c'est qu'il nous parle de mathématiciens, de classiques, etc. Alors que souvent, avec les entrepreneurs, on parle aussi de trucs liés ou de littérature liée à l'entrepreneuriat. Donc, lire Steve Jobs ou lire, etc. Enfin, qui sont des gens qui peuvent nous inspirer. Mais...
J'ai jamais lu un bouquin comme ça, j'en lirai jamais. Alors là.
C'est comme les policiers qui ne regardent pas de séries policières.
Voilà.
C'est pas la vraie vie. C'est marrant, en t'observant, je t'imaginais très rock.
Ah ouais, non, pas du tout. Non, rock, je sais pas ce que tu veux dire, avec des bagues, avec des têtes de mort ou des trucs comme ça.
Non, ouais,
ça, c'était
pas.
Mon ex-associé Bruno Van Rib, que peut-être toi, Olivier, tu l'as connu.
Ouais. Ah bah oui, absolument. Ouais.
Ouais, et qui est décédé il y a 2 ans. Et lui, il était rock. Moi, je suis pas rock.
Oui, il était toujours avec son perfecto. Il faisait de la moto. Je fais de la moto aussi, d'ailleurs.
Alors, je connaissais pas l'histoire, mais je fais une parenthèse. Du coup, t'as un associé qui est parti pendant l'aventure.
Ouais, alors il faisait autre chose, mais il avait décidé de consacrer. D'ailleurs, il était ici 4 fois par semaine à s'occuper de City Scoot, qui était devenu son nouveau bébé. Je lui ai proposé de rejoindre l'entreprise en 2017. Et son bureau, c'était celui-là, là, qui est juste à ma droite. Et il est mort il y a 2 ans dans un accident de la circulation. Donc, et ça a été une grosse perte pour moi. Ouais. Mais c'est pas ma claque.
Non, écoutez, ça c'est un moment difficile parce qu'il était Bruno Van Rib, c'était aussi quelqu'un de très connu dans l'écosystème, très très impliqué dans toutes les questions de lobbying avec nous. On a beaucoup travaillé avec France Digital aussi avec lui, et donc très très identifié, et entrepreneur et investisseur à succès. Alors du coup, évidemment, c'est un moment triste, mais bon, c'est bien aussi de lui rendre hommage. Et je trouve que d'un autre côté, ça aurait pu être intéressant malgré tout. De parler de cette rubrique La Claque, parce que c'est toi qui l'a cité. Parce que très souvent, je te dis sans transition, très souvent, quand on parle aux entrepreneurs, alors toi, tu as été très transparent, partagé beaucoup de choses, mais très souvent, ils sont très positifs. Tous les entrepreneurs racontent en gros leur histoire. Hein, on parle de storytelling parfois pour dire que tout va bien tout le temps, etc. Mais il est vrai que sur le parcours ou sur le chemin du succès, il y a aussi des échecs en général, et on ne va pas forcément citer tous les grands auteurs qui valorisent l'échec, mais on aime bien quand les entrepreneurs osent partager une claque, donc un moment donné qui a pu être difficile pour eux dans leur parcours, qu'il soit d'ailleurs personnel ou professionnel.
Eh ben,
vas-y, jingle.
Waouh.
Ouais, alors, je crois quand même que j'ai eu vachement de bol avec City Scoot. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai eu un obstacle devant moi, même au dernier moment, alors que s'il aurait pu représenter une énorme claque, bah, je sais pas, il tombe d'un coup, tu vois. On a toujours eu une sorte de Deus ex machina qui faisait que les portes elles s'ouvraient au dernier moment et tout allait bien. Donc j'ai pas eu de claque avec City Scoot. J'ai eu une claque dans ma vie professionnelle d'avant qui m'a appris énormément de choses. C'était mon histoire avec quand j'étais chez. Or, je pense que maintenant, la confidentialité, elle a sauté.
De toute façon, tu l'as cité tout à l'heure.
JP Morgan, ouais, c'était il y a 22 ans. Bon. Et on m'a accusé à ce moment-là de manipulation de marché, alors que ce n'était pas moi du tout. Et j'ai servi de fusible à cette banque et j'étais 8 ans en procès et j'ai perdu toute ma carrière. Et finalement, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui parce qu'ils m'ont coupé les ailes au moment où tout allait bien pour moi et ils m'ont jeté... en pâture, au loup. Et là, c'est ma fierté qui a parlé et surtout mon sentiment ma volonté de refuser l'injustice. Donc, j'étais innocent. J'ai appelé mon père un jour en me disant « Papa, putain, je vais me faire virer. Ils m'ont accusé de manipulation de marché. J'ai des entretiens. »
Tu risques pas que la perte du boulot dans ces cas-là.
Tu perds ta licence à vie, la perte du boulot et tu payes une amende. D'accord ? Donc, c'est lourd, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire que ta vie est foutue en l'air, complètement. Donc, ça, c'était... j'ai failli perdre ma femme, d'ailleurs, à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment une situation qui était très compliquée. J'avais 30 ans.
C'est pas bien vieux hein.
Ouais, j'avais 30 ans, c'était très compliqué et j'ai trouvé heureusement alors il faut savoir que quand on se... la leçon c'est que même quand on a raison, c'est horrible à dire hein. Pourtant c'est pas mon style, mais quand on est innocent et qu'on se bat contre, enfin David ne gagne pas contre Goliath, d'accord. Ça existe que dans les livres.
Quelques films américains.
Ouais, ou peut-être quelques films américains qui se terminent bien. Mais quand on est... et pourtant, j'ai eu des aides, j'ai eu des lobbies, etc. Mais par exemple, quand on veut trouver un avocat et qu'on se bat contre JP Morgan, tous les avocats bossent pour JP Morgan dans la City. Donc, tu ne trouves pas d'avocat. D'accord. Donc finalement t'en trouves un qui te plante complètement, qui te trahit à moitié, enfin c'était horrible. Et puis à un moment t'as plus d'argent, t'as dépensé tout ton argent et puis t'as dépensé tout l'argent de la retraite de tes parents, des millions hein, d'euros, et t'as plus qu'un seul choix, c'est de te défendre tout seul. Et tu te défends tout seul, t'es au tribunal
face à une batterie d'avocats, j'imagine,
face à 50 avocats, parce que t'as le FSA, Financial Securities Authority, t'as le London Stock Exchange qui est en face de toi, et puis t'as JP Morgan qui veut bien s'assurer que tout va bien, d'accord. Et toi t'es tout seul et t'arrives, tu prends le métro le matin avec deux sacs énormes de classeurs, tu parles anglais mais tu parles pas le langage juridique, tu vois. Et le juge, il te regarde dans les yeux, il a envie de pleurer pour toi. Et c'est des super... Moi, j'étais en admiration devant ce juge. Et qui te dit, je sais que vous avez raison, mais je vous crois, vous êtes innocent. Mais la façon dont vous êtes défendu, je ne peux pas juger en votre faveur. Tu vois. Et là, ta vie, elle est foutue. Et donc, ça a été une énorme leçon pour moi, de savoir qu'à un moment, il faut accepter la défaite. C'est horrible. Hein. Mais il faut accepter que le mec qui est en face, il est plus fort que toi. Et même si tu as raison, il va te tuer. Et vaut mieux s'arrêter au début et garder un peu d'argent, en fait, et essayer de se relancer plutôt que tout dépenser jusqu'au sang et puis sortir vaincu et perdre.
Et donc, tu as dû payer une amende, effectivement ?
Alors, j'ai jamais payé l'amende parce que j'ai toujours refusé de payer l'amende. Et de toute façon, tous ceux qui étaient en face de moi savaient que j'étais innocent. Donc, ils n'ont pas insisté pour l'amende. Ce qui les intéressait, c'est que je perde ma licence.
Et d'être
que finalement, j'ai récupéré
la
au bout de 2 ans.
J'imagine.
Et avoir trouvé le fusible. Voilà.
D'accord.
Ouais.
Comment se remettre un coup comme ça ?
C'est parce super dur. Donc,
perte de confiance, j'imagine.
Mais non, mais tu perds tous tes repères. Tu te dis, mais dans quel monde je vis, tu vois ? C'est incroyable. Si même... Je ne peux plus avoir confiance aux juges. Et je peux te dire, la justice, elle est plutôt beaucoup plus efficace. Enfin, les juges sont beaucoup plus pros, je pense, les Anglais, qu'en France, où j'ai vu quelques juges. Je pense que les avocats sont plus forts dans leur plaidoirie et que les juges sont meilleurs. Les juges anglais sont extraordinaires. Ouais. Et tu ne te remets pas, tu te remets difficilement. Alors, moi, je suis revenu, j'ai dit... avec mes valises, plus d'argent, plus rien. J'ai appelé Jean-Marc Etienne qu'on a entendu tout à l'heure. Je lui dis, Jean-Marc, est-ce que tu veux m'embaucher ? Donc, il dirige une société d'intermédiation sur les marchés financiers. J'avais déjà bossé avec lui par le passé. C'était mon premier employeur. Et je lui dis, Jean-Marc, est-ce que voilà, je suis dans la merde et tout. Et c'est là qu'on voit ce que c'est qu'un vrai pote. Il m'a dit, écoute, j'ai rien pour toi, mais je t'embauche. Et il m'a permis de rebondir. Ouais. Il m'a permis de rebondir et je suis resté 3 ou 4 ans avec eux, le temps que je me remette un petit peu. Et puis après, on s'est séparés, j'ai construit mon garage et je suis reparti comme ça. Mais lui, moi, il me restait plus que les doigts qui sortaient de la vase et il m'a tendu la main et il m'a sorti comme ça. Ouais.
Bel hommage amical.
Ouais. Pas besoin toujours de frères et de sœurs pour retrouver la fraternité.
J'oublierai jamais.
Mais c'est vrai que du coup, je comprends et ça met en résonance, tu as raison Thomas, ce que tu disais, le regret que tu peux avoir de ne pas avoir de frères et de sœurs, etc. Bon, bah, après, tu le remplaces par des amis, effectivement. Et c'est une question que je me posais qui rejoint un peu ça, c'est que finalement, City Scout, si je comprends bien, tu n'as pas de cofondateur. Alors, tu as des amis qui ont investi, mais tu es le seul fondateur. On voit dans l'ex 40, il y a tous les cas qui existent. Enfin, il peut y avoir des associés qui fonctionnent à 3, 4, 5 et puis certaines personnes qui sont en binôme. Il y a souvent quand même des binômes. Et puis quelques-uns qui sont plus seuls. Est-ce que ça s'explique par les aventures que tu as connues, les déboires, et également peut-être le fait que tu sois fils unique et les traversées du désert que tu as pu avoir, ou tu n'as pas vraiment recherché d'associés
Non, j'ai pas recherché. Et franchement, moi, j'ai une femme et des enfants, donc elle comprendrait pas trop que je dise ça. Mais moi, je pourrais être tout seul, ça ne me dérangerait pas dans la vie. Je pourrais être sur une île déserte, je pourrais être en prison à lire des livres. Je me suffis très, très bien à moi-même.
D'accord, donc forte richesse intérieure.
Ouais, mais j'accepte la contrepartie. Alors tu vois, j'ai Bertrand Altmaier qui m'a rejoint en tant que DG au mois de mai. Je suis super heureux. Parce que là, j'avais Bruno avant. Et je dois dire que entre le départ de Bruno et l'arrivée de Bertrand, à chaque fois je me disais si Bruno était là, qu'est-ce qu'il dirait, tu vois. Donc j'ai quand même besoin d'avoir une sorte de contrepartie un petit peu business, un peu intellectuel, ouais. Mais sinon là aujourd'hui je pourrais plus être tout seul. C'est fini. En plus, il m'a montré des trucs qui sont de son âge. Tu vois, il a 37 ans, il est complètement dans l'écosystème et tout. Et moi, il m'a appris plein de choses là déjà en 6 mois.
T'as un exemple comme ça qui te vient spontanément en tête ?
Bah ouais, enfin, la façon, tu vois, le truc qui est derrière toi, c'est la roadmap tech. Bon, la roadmap tech, pour moi, c'est un truc. Bon, c'est même pas que j'avais pas le temps de m'en occuper. C'est que c'est.
En 37 post-it, ouais, j'ai compté. C'est un peu comme Rain Man.
C'est le truc qui m'était même pas venu à l'esprit, tu vois. Donc, lui, il est fort. Il est en train de tout bien me mettre. Là. Voilà.
T'évoquais tout à l'heure rapidement tes enfants. Au-delà du fait d'être capable de ne pas partir dans un combat qu'on est sûr de perdre, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais léguer comme manière de voir la vie ?
Ouais, moi je pense que le libre arbitre, je crois que c'est un des trucs qu'il y a de plus important dans la vie. Moi je reproche souvent aux gens qui sont autour de moi de répéter la parole du dernier qui a parlé, tu vois. Ça c'est, pour moi c'est horrible. On est dans un monde de...
C'est horrible. Pardon.
C'est horrible. Non mais
c'est horrible.
Non mais c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, tu vois. Et ici on est dans un monde, alors c'est pas du tout ma carte blanche là, mais moi j'ai toujours appris, j'ai deux grandes filles et deux petites filles. J'ai deux filles qui ont 25 et 27 ans et j'ai deux filles qui ont 3 mois et 1 an et demi. Bon. Donc, les grandes, je leur ai appris à être indépendantes dans leurs pensées. Tu vois. Et ça, je trouve qu'il y a plus important. Je refuse de me faire influencer. J'ai récemment éteint, comme beaucoup d'ailleurs, hein, je suis sur LinkedIn, c'est le seul. J'ai jamais été sur Facebook, j'étais sur Twitter 2 semaines, Instagram, je sais même pas comment ça s'écrit, et TikTok, je sais même pas la peine de m'en parler. Je déteste ça et je déteste les gens.
Parce que tu y vois derrière une sorte de pensée unique, enfin, ou une sorte de manque d'originalité, de créativité des individus, quoi.
Mais exactement, je pense que quand tu es addict à ton réseau social, tu ne construis plus ta propre pensée. Tu navigues au gré des pensées des mecs, des gens qui pensent à ta place, d'accord ? Et ça, je refuse ça absolument. Moi, j'ai éteint tout. J'ai éteint aussi tous mes médias. Moi, j'ai éteint BFM. J'ai tout éteint.
C'est quoi ? C'est il y a deux choses. C'est des médias soit sociaux qui vont être plutôt sur le rapport à l'image de soi, des autres, etc. Des médias dont tu parlais d'information continue qui globalement t'abreuvent de messages négatifs.
Non, il n'y a pas que ça. Négatif, tu peux faire la part des choses. C'est qu'ils te disent comment il faut que tu penses. Là, aujourd'hui, on est dans un monde où on te dit comment tu dois penser. Et moi, j'aimerais que mes filles ne succombent pas à cette.
Ce que je trouverais intéressant, juste par rapport à ça, mais évidemment, on n'a pas le temps d'en débattre lors d'un podcast, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui est sur la pensée contradictoire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est l'anti-contradiction. En gros, on est dans un cercle.
Les
qui pensent à peu près tous la même chose.
Oui.
Et puis, effectivement, quand on écoute, on les aime bien, nos amis de l'information continue, il y a très peu de recul. Donc, c'est comme on appelle ça un robinet à images ou un robinet à information. Donc, il y a très peu de construction par opposition, de dialectique et de construction du débat. Quoi.
Néanmoins, et je pousse juste l'idée pour qu'on aille au bout du sujet, à l'inverse de ce que beaucoup maintenant appellent les médias mainstream, il y a tout un autre type de médias avec aussi de la désinformation ou de l'information incomplète qui pullule. Où est-ce que tu mets le...
Ah non, mais moi, je ne m'intéresse plus à l'information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les données maintenant et les avis. Donc, tu vois, par exemple, moi, le soir, je lis, je suis avide d'une seule information, c'est de savoir combien il y a eu de contamination. C'est la courbe, d'accord ? Pour moi, une courbe, c'est des données et c'est brut. Tu la prends comme ça, elle ne te dit pas comment il faut que tu l'interprètes.
C'est à toi d'analyser.
Tu l'interprètes toi-même. Tout ce qui est autour de ça, je ne l'écoute pas. Donc les seuls articles que je lis, ce sont ceux où il y a des chiffres en fait, ou des données. Et les émissions pour les animaux, j'adore regarder les émissions sur les animaux.
C'est vrai que c'est reposant, notamment tard le soir.
On va sur la carte blanche.
Je pense que oui, on en a parlé, tu l'as déjà cité, et du coup, écoute, comme tu as l'air inspiré, ça va nous passionner. Donc le principe de la carte blanche, c'est quelques minutes libres de parole. Nous, on n'intervient pas. C'est toi qui déploie le sujet que tu as envie de faire partager aux auditeurs.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Ouais, alors j'ai pas préparé la carte blanche, mais je pense que ce qu'on a évoqué avant est une bonne rampe de lancement pour moi. Et d'ailleurs, quand Thomas t'est arrivé tout à l'heure, je t'ai dit « Oh merde, j'ai pas réfléchi à mon coup de gueule. » Et tu m'as dit « Mais c'est pas forcément un coup de gueule, c'est une carte blanche, tu peux parler de ce que tu veux. » Bon. Je suis quelqu'un qui... Enfin, j'aime pas critiquer, mais je dois reconnaître que j'aime bien donner mon avis sur des trucs, donc je vais rester sur la lancée de la réflexion précédente, qui est celle du manque de liberté dont on est victime en ce moment, tous autant qu'entre nous. Et pourtant, moi, je vais vous dire à titre perso, les restrictions et le confinement ne m'affectent absolument pas. Moi, ma vie, à part ne pas aller à mon petit resto où j'ai l'habitude d'aller le samedi midi et le dimanche midi, finalement, moi, le soir, je sors pas trop. Je regarde Netflix, je lis Wikipédia et moi, ça me suffit largement. Bon, ce qui m'embête, ça m'affecte quand même indirectement puisque ça affecte ma société et ça, j'aime pas qu'on touche à ma société. Bon. Donc, moi, le confinement ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que tout d'un coup, là, est arrivé en même temps que le confinement une sorte de nouveau monde où tout le monde a parlé, tout le monde parle, et tu peux par hasard te mettre sur une chaîne d'info au hasard 4 fois dans la semaine, tu fais 4 bips, et puis tu vois pratiquement toujours les mêmes parler, ou des gens qui sont différents mais qui se ressemblent, et puis des politiques, etc., et qui donnent tous leur avis en pensant que ce sont des sachants. D'accord. Et moi, je ne sais pas qui est sachant dans toute cette histoire, mais ce Covid a instauré un nouveau truc, une nouvelle méthode de pensée, qui est qu'on donne la parole à tout le monde. Et là-dedans sont dilués les gens à qui on, les seuls à qui on devrait donner la parole, ils sont complètement dilués. Et puis il y en a tout un tas d'autres à qui on donne la parole et qui n'ont rien à dire. Et je pense que je suis en colère après les grands médias, d'accord, de nous avoir brainwashé là depuis un an et probablement depuis plus longtemps, mais avant je m'en étais pas aperçu, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on me dise quoi, ce qu'il faut que je pense, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire, ce dont j'ai le droit de me moquer ou pas de me moquer, les blagues que j'ai le droit de faire, les blagues que j'ai pas le droit de faire. Tu sais, à un moment, tout à l'heure, c'est marrant, j'étais à la cuisine, et tu sais, tout à l'heure, ce matin, quand je suis parti, j'ai pris au hasard un truc, et il est rose, tu vois, mon
machin. Tu montres ton masque.
Ouais, moi, j'ai un masque rose, tu vois. Et je me suis dit, si jamais on me faisait une réflexion sur « Ah, pourquoi tu portes un masque rose ?» Ben, j'ai peur que t'aies pas le droit de me le dire, en fait, tu vois. On est assez loin pour me dire « Mais pourquoi tu te moques de moi alors que j'ai un masque rose ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ?» Bon, ben moi, je suis contre ça. Je dois dire, j'ai pas envie de dériver dans le politique ou le bien-pensant, etc. Mais je fais partie de ceux qui sont un petit peu réac contre la bien-pensance. Voilà, ça c'est ma carte blanche, c'est ça. Mon coup de gueule, il est contre la bien-pensance.
Est-ce que ce qui ne va pas dans la pensée globale est de fait du coup plus audible et plus désirable ?
Non, mais ce qui n'est pas dans la pensée globale, la pensée globale est par définition quelque chose à laquelle on t'oblige à adhérer. Les autres pensées, on t'oblige pas à adhérer. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on m'oblige à adhérer. Voilà, à un club dont je ne veux pas faire partie.
Bon, coup de gueule,
sauf le Next 40,
très, très clair.
Ça, c'est un club dont on est content de faire partie.
Mais il n'y a pas une façon de penser du Next 40, effectivement. Enfin, bon, très clair.
Complètement.
Merci beaucoup pour cette carte blanche, Bertrand.
Eh bien alors, sans transition et rien à voir avec l'euro, sûrement pas, mais on conclut toujours avec Olivier sur notre rubrique Sista. Tu dois t'en rendre compte.
Ah mais oui, je suis très content.
Tu dois t'en rendre compte que vous, Next 40, vous êtes beaucoup, vous, des hommes. Et on voulait féminiser un peu nos podcasts en vous proposant de mettre en lumière une femme.
Ah ouais, je l'adore. En
plus. Que vous admiriez.
Ce qui signifie aussi que c'est la fin de ton podcast.
Donc ok.
On en profite aussi avant de te laisser la parole et te demander qui sera l'assista sur lequel tu veux peut-être mettre un coup de projecteur. Donc merci beaucoup. On a passé un moment formidable avec toi.
Donc je dis qui c'est là ou pas ? Non, tu vas le dire.
Si, on va effectivement maintenant te demander qui est l'assista. Donc et ensuite éventuellement quelles questions tu aimerais lui poser.
Ah d'accord.
Parce qu'on va faire intervenir ensuite.
D'accord. Alors l'assista c'est Stéphanie Delestre qui a monté Kappa, qui est une boîte d'intérim en fait. Cette fille-là, moi je l'avais croisée à un dîner d'entrepreneurs qui s'appelait chez Dom, qui était le gars d'Index, et Dominique Vidal. Et elle avait accaparé l'attention à elle toute seule. Et moi, je ne la connaissais pas à ce moment-là, parce qu'elle, d'abord, elle est super marrante.
Elle a de l'énergie.
Elle est hyper vive. Elle a fait marrer tout le monde. Je crois qu'elle était arrivée en retard. Bon, enfin, c'était formidable. Et moi, j'étais en admiration devant elle, alors que je ne la connaissais pas. Et ensuite, on s'est rencontrés. Il se trouve que je l'ai fait même travailler maintenant, parce que moi, je plaide beaucoup pour que les sociétés de l'écosystème se travaillent entre elles autant que possible. Et puis depuis, alors on a bu des pots ensemble, etc. Et elle est bourrée d'énergie. Et moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est, ça j'ai pas préparé, mais j'ai envie de lui dire, mais pareil, la même question que celle que tu m'as posée en intro, c'est pourquoi tu cours, Stéphanie ?
Eh ben, on va lui donner la réponse.
Super entrepreneuse qui a été aussi au bord de France Digital, d'ailleurs, avec moi. Donc, on se connaît bien. C'est génial. Sympa de mettre un coup de projecteur sur Kappa et Stéphanie Delestre.
Et on la retrouvera au micro de Solène Etienne dans 40 nuances de Sista. Un grand merci à toi,
merci
Bertrand.
Merci à vous, surtout, d'avoir pensé à moi.
Merci, Bertrand.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.